Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
Cap Sport propose ce soir un doux mélange de voile, de football et de hockey sur glace. En voile, un chaudfonnier de 41 ans, Nicolas Schmitt, projette de participer à la mini-transat en solitaire La Rochelle-La Martinique. Une aventure au grand large qu'il prépare pour 2021. Neuchâtel Xamax FCS, de son côté, se projette sur l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse et la formation. Celle-ci passe aussi par une collaboration active entre tous les acteurs de l'arc jurassien. Le président Christian Bingli nous en dira plus. Et puis, à une bonne heure du coup d'envoi de l'acte 2 de la finale des playoffs pour le titre de Swiss League de hockey sur glace, Leonard Reichen est déjà à la patinoire du Schorren pour évoquer le duel entre Langenthal et la Chaux-de-Fonds. La revanche est dans l'air.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir, c'est un chaudfonnier de 41 ans, passionné de voile et amoureux du grand large. Nicolas Schmitt projette donc de participer à la Mini Transat en solitaire de 2021, une régate qui se déroule en deux étapes, soit La Rochelle-Tenerife et Tenerife-la-Martinique. Nicolas Schmitt dispose encore de deux bonnes années pour se préparer et aussi pour prendre en main son embarcation. Il devra passer par des régates de qualification en Méditerranée et sur le bassin Atlantique. Dans un premier temps, toutefois, il va bientôt mettre à l'eau son vecteur de 6,50 m dans le lac de Neuchâtel, un prototype issu d'un chantier naval polonais qu'il a ramené par la route, une première aventure, mais la plus grande et la plus belle aventure est donc encore à venir, Nicolas Schmitt.
C'est une suite de ma vie finalement, dans le sens où ça fait depuis l'âge de 11 ans que je navigue, j'ai déjà traversé plusieurs fois l'Atlantique. Les livres de Bernard Montessier, toutes ses aventures et autres m'ont fait rêver, puis la navigation en solitaire m'attire énormément. Et là, c'est le moment de réaliser ce projet-là et de partir à l'aventure.
Vous ne vous jetez pas à l'eau tête baissée, si je vous comprends bien. Il y a quand même une certaine expérience.
Alors, en croisière, certes, alors ça c'est sûr. Après, au mode régate, ça c'est une nouveauté pour moi, en tout cas en mer. Sur le lac, non. C'est un nouvel apprentissage que je vais faire en 2019 et 2020 avant de me lancer en 2021 sur la Mini Transat.
Parce que, outre le bateau, il y a une préparation du skipper également qui est importante.
Oui, il y a toute une qualification à faire l'année avant. C'est des qualifications régate et hors régate à faire. Sur le circuit mini, c'est des régates qui sont imposées par la classe mini. Si on ne le fait pas, on ne peut pas courir la Mini Transat.
Nicolas Schmitt, ces qualifications servent surtout à démontrer si le skipper est compétent ou pas. Et s'il dispose aussi d'un bateau fiable. Il y a les deux éléments.
C'est clairement dans cette optique-là pour ne pas se jeter tête baissée comme ça à l'aventure et puis qu'il y ait tout qui explose après quelques jours de navigation. C'est vraiment pour fiabiliser le couple bateau et marin. Mais quand on parle couple, c'est le bateau ne peut pas aller sans le skipper et le skipper ne peut pas aller sans le bateau. Donc c'est un couple, c'est une vie à deux pendant toute cette aventure.
Vous parlez d'une aventure, est-ce réellement une aventure? Parce que dans une aventure, on prend des risques, il y a aussi les impondérables, c'est ça. Alors est-ce qu'on prend des risques?
Tout ce qu'on ne peut pas contrôler, oui, c'est des risques en soi, mais après on peut quand même essayer de partir dans de bonnes conditions, être à 100% prêt, en tout cas le bateau et nous-mêmes. Mais après le reste, faut faire avec et c'est tout. Faut être aussi capable de pouvoir parer à un imprévu et de s'adapter à la situation pour soulager le bateau, pour qu'il puisse continuer de naviguer. Il peut toujours avoir de la casse, donc c'est pas parce qu'il y a de la casse qu'il faut abandonner, il faut continuer et puis c'est tout. En tout cas, sécuriser le bateau puis le marin, puis aller le plus loin possible. Et puis c'est pas parce qu'il y a une pièce de cassée qu'on abandonne, au contraire, je dirais presque.
Parce que vous l'avez dit, vous avez l'expérience finalement de la navigation grand large, en mode loisir, en mode compétition, c'est quand même différent, non?
C'est clairement différent. Après, le problème, c'est sur des grandes distances. C'est pas de tomber dans ce piège, justement, de se mettre en mode croisière et puis tout va bien, le bateau, il avance. Puis voilà, c'est vraiment ce piège-là où je dois m'en écarter le plus possible. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut que je dépasse. Voilà.
Parce que physiquement, c'est quand même éprouvant.
Physiquement, ça, oui. Après, y a des préparations physiques à faire. Mais je pense que c'est plus aussi moral de se retrouver seul. On peut, je pense, en 5 minutes, on peut passer par tous les états d'âme, d'une euphorie incroyable à un dépit total, puis en passant par les larmes, par une crise de nerfs. Ça, je m'attends à un grand 8 au niveau émotionnel.
Est-ce que ça vous inquiète?
Non, ne m'inquiète pas, tant que c'est passager, si c'est permanent, ça ne va pas.
un grand 8 et peut-être de grandes vagues. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Schmitt, ce chaudefoignier de 41 ans qui a décidé de participer à la Mini Transat en solitaire de 2021. Le projet est là. Il a pris forme par la réception de sa coquille de noix de 6,50 m, bateau qui a donc donné le nom à la course. On y arrivera, Nicolas Schmitt.
Le bateau, ça fait partie de la classe mini. Du coup, c'est des tout petits bateaux de 6,50 m de long par 3 de large. Mini Transat, on est seul, en solitaire, sans moyen de communication externe. Donc tout est réduit au minimum, d'où Mini Transat.
Mais un bateau de 6,50 m sur l'Atlantique, c'est véritablement une coquille de noix. Ça fait un tout petit peu peur, non ?
Non, parce que ça reste à taille humaine, le bateau. Donc après qu'on ait un bateau de 15 mètres ou de 20 mètres ou je ne sais pas quelle grandeur, ça reste petit sur l'océan, sur l'eau. Donc non, là au niveau de la grandeur du bateau, c'est pas mon souci ça.
Mais lorsqu'on est un peu béotien, qu'on ne connaît pas trop la voile, on se dit qu'on va chavirer à la première vague.
Non, les bateaux ils sont conçus pour. Et puis après, il faut quand même maîtriser tout ce qu'est navigation, c'est clair. On va pas grimper l'Everest comme ça parce qu'on a été se faire une petite balade en montagne. Et puis il y a toute une préparation avant. C'est exactement la même chose. Un monocoque comme le Mini reste un bateau simple de conception, de fabrication et puis d'utilisation pour le marin, quoi. Il y a beaucoup de marins, de grands marins professionnels qui sont passés par la classe mini, justement. Et puis c'est pour faire ses premières armes de navigation en tant que régatier.
Nous sommes assis dans ce bateau actuellement, hein, mais on est au sec, on n'est pas sur la terre ferme. On se dit qu'on est passablement ballotté par moments.
Alors, oui, on peut être vite ballotté, mais après, voilà, c'est une question d'habitude et puis de gérer tout ça. Mais c'est une autre façon de vivre et c'est pas abordable pour forcément tout le monde.
Nicolas Schmitt, ce bateau, d'où provient-il ? C'est vous qui l'avez construit ? On est dedans actuellement.
C'est un chantier en Pologne qui a construit ce bateau. Sur les plans d'Étienne Bertrand, l'architecte, un architecte naval, bien connu dans le monde. Du coup, c'est un bateau qui a été construit, là ils sont à 10 unités pour le moment, donc il va être tantôt homologué en tant que bateau de série, et plus en tant que prototype. Donc là, c'est une coque nue qui est peinte extérieure, on a le mâle, le gréement, tout ça. Et maintenant, je dois faire toute l'installation au niveau de l'électronique, toute la préparation des installations du matériel.
La première aventure, c'était, vous m'avez dit déjà, de le ramener de Pologne.
Ah certes, c'est quand même 2500 km. Vu sa largeur, on est hors gabarit. C'est pas quelque chose qu'on a tous les jours derrière la voiture. Et puis, c'est une première réalisation, c'est un début d'aventure. Enfin voilà, c'est du concret maintenant. C'est déjà énorme d'en être là.
Nous sommes à l'intérieur de la cabine. A priori, pour l'instant, elle est vide. Ça se remplit vite, une cabine. On a l'impression qu'il y a beaucoup de place pour l'instant.
Après, il faut voir qu'il y aura tout le matériel sécurité. Dans un premier temps, les voiles, il y a 7 voiles à bord, au maximum, sans compter la nourriture, les affaires personnelles, les affaires de navigation, tout ce qui est cartes et documents maritimes. Donc, il ne reste plus beaucoup de place après pour vivre.
Vous m'avez dit, le nerf de la guerre dans un bateau, c'est peut-être tout l'aspect électronique maintenant, c'est vrai ?
C'est sûr que sans électronique, actuellement, c'est assez difficile de faire sans. C'est un peu le cœur, le cerveau du bateau. C'est un peu notre second finalement, parce que quand on dort, il y a le pilote automatique, il y a des calculateurs au niveau du vent, vitesse de vent, vitesse du bateau, des répétiteurs. Donc on peut se reposer sereinement, entre guillemets.
Vous allez commencer à l'apprivoiser sur le lac de Neuchâtel, c'est pour quand ?
J'espère d'ici 3 semaines environ pouvoir la mettre à l'eau. Voilà, après ça dépendra de l'avance de l'installation, de la préparation et de la peinture, enfin de l'antifouling. Puis après, dès que je peux, c'est go, quoi. Il faut naviguer là.
En finalité, Mini Transat, en combien de temps là, vous espérez rejoindre la Martinique en combien de temps ? On se fixe un but où finalement c'est très difficile, très aléatoire, parce que les vents peuvent beaucoup varier aussi.
Oui, je n'ai pas un objectif spécial là-dessus. Dans un premier temps, c'est d'arriver de l'autre côté, alors ça c'est clair. Après, de donner au maximum et de faire le meilleur résultat possible.
Vous m'avez dit, sans téléphone, sans internet, des éléments avec lesquels on a l'habitude de vivre, ça pourrait nous angoisser, ça vous angoisse ?
Non, ça ne m'angoisse pas. C'est aussi pour ça que je vais dans cette direction-là, puis que je pars sur un bateau, sur une classe comme ça.
Cette solitude-là peut vous plaire ?
Dans un certain sens, oui, parce qu'on est confronté à soi-même et puis on peut compter sur personne d'autre. Et c'est ça qui est aussi agréable. Donc on fait vraiment comme nous on le sent, enfin comme je le sentirai et comme j'ai envie. Il n'y a pas de concession à faire avec d'autres personnes. C'est soi-même et c'est tout.
Le navigateur chaudefoyen Nicolas Schmitt, donc, que l'on ne manquera pas de suivre dans son aventure, la Mini Transat en solitaire, c'est pour 2021.
Cap Sport.
Neuchâtel Xamax FCS axe tout sur la formation. Le club de football rouge et noir a pris un virage à 180 degrés. On le sait, Stéphane Anchaud ne sera plus l'entraîneur des Xamaxiens la saison prochaine. Son successeur se nomme Joël Magnin. Cet ancien international neuchâtelois travaille au sein de la poste de formation de Young Boys depuis plus de 10 ans. Une équipe de moins de 21 ans devrait permettre d'assurer la transition entre les M18 et la première équipe de Xamax. Mais pour que sa création soit validée par l'Association Suisse de Football, Neuchâtel Xamax devait aussi s'engager à renforcer le partenariat Béjune, en clair sa collaboration avec Bienne et le Jura. Ce qui sera fait, insiste le président Christian Bingui. On l'écoute.
Alors, il est signé, hein. Ça veut dire que, autant du côté de Bienne que d'Élément, on va travailler main dans la main. Mais notre idée, c'est qu'un joueur qui est bon à d'Élément peut suivre une certaine filière, pourra arriver chez nous, M18, voire M21, et puis un jour pouvoir accéder à, justement, à cette première équipe. Il y a monsieur Sylvestre et monsieur Feuglet qui est à Bienne, qui font un énorme travail. Et là, on sent qu'en ayant fait avec Béjune, on a quelque chose de solide au niveau de la jeunesse.
Parce qu'autour de l'Arc Jurassien, à proximité directe, il y a Bâle et Young Boys qui attirent les meilleurs footballeurs de Suisse. La concurrence sera rude. Comment se distinguer? Comment être attractif?
Je pense qu'on peut être attractif s'il n'y a pas cette coupure comme on a eu avec les M18, où après le joueur, il n'a pas tout à fait le niveau pour aller en Challenge League ou en Super League. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Soit il part dans des autres ligues ou en Première League. Mais là, on peut offrir au joueur tout un parcours. Puis s'il a bien réussi en 18, il peut aller en 21. En 21, il est suivi par les entraîneurs professionnels. Et puis il a une chance d'aller en première équipe. Et je pense que c'est avec ça qu'on va arriver à garder nos joueurs.
Comment faire avec un jeune jurassien qui vient de Léman, qui est porté sur le FC Bâle, qui propose également une structure pour les jeunes? C'est pas forcément évident de l'attirer à Neuchâtel.
Alors on va l'attirer à Neuchâtel par, je pense, une bonne formation, peut-être par aussi une famille d'accueil, en parlant aussi avec ses parents, c'est important. Et puis je pense qu'il aura peut-être plus de chances de percer à Neuchâtel qu'à Bâle, qui ont un réservoir de joueurs inimaginable.
Vous parlez également de vous inspirer de ce qui se fait au FC Thun, hein, mais le FC Thun ne forme pas forcément ses joueurs. Il va aller chercher dans les ligues inférieures. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un projet semblable?
Alors, ce qui me plaît dans le FC Thun, avec un petit budget, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Ça, on voit cette année au niveau du classement où ils sont. Ils ont peut-être 4 millions de plus que nous au niveau du budget, mais ils recrutent en Suisse. C'est cet exemple qui me plaît. On est tellement bon au niveau de la formation en Suisse, de mettre en valeur, d'aller chercher un joueur de promotion en Ligue, de le faire évoluer, d'aller apprendre Challenge League. Ils en viennent de signer Castroman, que nous on est aussi intéressés. C'est toutes des choses qui me plaisent parce qu'ils sentent, les bons éléments et ils ne vont pas chercher tellement à l'étranger. Eux, ce qui est important, je crois que c'est la mentalité.
Pour revenir à ce projet de cellule de scouting qui a été mise en place depuis quelques temps, comment elle se porte jusqu'à maintenant, où on en est à ce niveau-là?
Alors, c'était difficile de travailler parce que je savais qu'on allait avoir du changement. Je ne pouvais pas prendre position sur certains joueurs. On a une liste, on a des gens qui ont été les voir, on a des noms. J'ai transmis ça maintenant à M. Magnin et puis à Frédéric Page, et c'est leur boulot. On a visionné, on a des dossiers comme ça, puis maintenant il faut les mettre, il faut aller en avant.
Mais à vos yeux, qu'est-ce qui manque peut-être à cette cellule aujourd'hui?
Alors maintenant, il ne va plus rien manquer, il y aura un guide. Il y en a M. Frédéric Page, et puis on a un patron qui sera là pour gérer cette cellule.
Former des joueurs, les intégrer à la première équipe, ce n'est pas forcément toujours évident lorsque, par exemple, on évolue en Super League et qu'on a besoin de résultats. Comment gérer ces deux aspects?
Alors pour moi, on vous a expliqué, il y a un plan A, un plan B. Si on a un plan A en Super League, il faudra vraiment que notre colonne vertébrale soit très très forte et performante, et on ne pourra pas mettre 11 jeunes dedans. Il faudra faire par des 3-4 jeunes qui puissent s'inspirer, et ça c'est le boulot maintenant des nouveaux arrivés.
Et le partenariat avec Colombier, qu'est-ce qu'il va devenir?
Alors honnêtement, on est allé parler avec eux. Si on a les M21, le partenariat s'arrête, mais ça ne veut pas dire que l'amitié va tomber. On a besoin aussi d'eux parce qu'on n'a pas que des joueurs qui pourront être dans le M21. Et puis, moi, j'espère pouvoir continuer avec le président, avec toute l'équipe de Colombier, de bien s'entendre et de continuer notre partenariat en termes d'amitié.
Le président de Neuchâtel Xamax FCS, Christian Bingley, répondait aux questions de Jean-Paul Pitchy.
Cap Sport.
Du hockey sur glace en troisième partie de Cap Sport, le coup d'envoi du deuxième acte de la finale des playoffs de Swiss League est donné dans moins d'une heure à la patinoire du Showrun. À 19h45 plus précisément, le HC La Chaux-de-Fonds va tenter de prendre sa revanche sur Langenthal après avoir perdu en prolongation 3-2 mercredi au Mélèze. C'était donc lors de l'acte 1. Léonard Reichen, lui, est déjà installé sur le banc de presse du Showrun. Léonard, bonsoir.
Oui, bonsoir Marcel.
Léonard, alors à moins d'une heure du coup d'envoi, est-ce qu'il y a déjà un tout petit peu d'ambiance là au Showrun ?
Oui, alors un tout petit peu. C'est vrai que c'est aussi un événement, évidemment, une finale, que ce soit autant pour le HCC du côté des Mélèze que pour le ST Langenthal du côté du Showrun. On a ouvert les portes très tôt, en fin d'après-midi, c'était vers 17h ici au Showrun. Donc c'est aussi une habitude, peut-être comme on le fait en Amérique du Nord, de chauffer un peu les esprits, de faire l'échauffement d'avant-match, si on peut dire, même du côté des supporters. Et les gens arrivent gentiment. Il y a déjà quelques supporters Chaux-de-Fonie. On est tout proche du secteur du HCC. On s'installe gentiment, mais pour l'instant, évidemment, pas de chant, pas de grosse ambiance. On est en train de finir la glace, mettre les cages des deux côtés de cette surface. Et puis, évidemment, que gentiment, à une heure du coup d'envoi maintenant, les choses vont se mettre gentiment en place.
Léonard, vous êtes encore jeune. Qu'est-ce que vous inspire cette patinoire que vous découvrez pour la première fois ?
Alors, elle est plus très jeune, effectivement. Le Showrun, c'est une des dernières enceintes qui est pas rénové, mais ça, c'est un hockey, c'est une ambiance de hockey, on va dire, très bucolique. C'est vrai que du côté de Langenthal, c'est une petite ville. Alors évidemment, c'est une patinoire à l'ancienne où on a encore des places debout sur le côté, apparemment, ce qui donne un peu d'ambiance aussi pendant les matchs, mais c'est assez petit. Mais il se dit que le Showrun a une ambiance chaude, les supporters sont aussi proches de la glace. Donc voilà, c'est une ambiance peut-être qui tend à disparaître dans les patinoires du pays, mais on est encore, on va dire, aussi bien contente de l'avoir du côté des Mélèze. Et puis en plus, pendant ces séries finales, ça donne quelque chose de bien animé, on va dire ça comme ça.
Voilà, on va quand même se concentrer sur le match. Comment, d'une manière très générale, entrevoyez-vous cet acte 2 entre Langenthal et La Chaux-de-Fonds ?
Ben évidemment, le HCC ce soir se retrouve pour la première fois de ses playoffs cette année mené dans une série. Hein, et c'est la première fois également qu'il n'a plus l'avantage de la glace. Donc ça doit faire un petit quelque chose aux hommes de Serge Pelletier ce soir. Ils l'ont perdu en plus de manière, on le rappelle, assez cruelle, parce que le HCC a fait un bon match l'autre jour du côté des Mélèze. Un match solide, serein, franchement, dans tous les départements du jeu. Évidemment, on a manqué un peu de piquant, on va dire ça comme ça, à la conclusion du côté des Mélèze, et cette égalisation à 44 secondes de la fin du temps réglementaire était très cruelle. Mais ce soir, le HCC se retrouve finalement un peu dans la situation comme il l'était avant le premier match, c'est-à-dire qu'il doit toujours remporter 4 matchs pour se qualifier pour gagner le titre tout simplement. Et il ne faut pas réfléchir, il faut essayer d'aller rechercher cet avantage de la glace en particulier.
Vous avez lâché un mot, serein, sérénité. Semble-t-il que cette équipe chaux-de-fonnière cette saison est assez sereine dans ses playoffs, et même au moment d'aborder cette finale.
Oui, franchement, alors autant on était critique au début des séries contre Zug Academy et Turcopie, où on a eu un peu l'impression que le HCC avait de la peine à se mettre dans ces séries, un peu quelques fautes techniques, aussi un peu de nonchalance, beaucoup de pénalités concédées aussi, c'était le cas contre Zug Academy, et ça n'a pas forcément été le cas contre Langenthal lors de ce premier match. Franchement, un HCC qui est resté concentré de bout en bout, et autant dans les joueurs les plus expérimentés que les jeunes joueurs. Franchement, ça, c'était une belle attitude sur la glace. Aussi autour de vestiaire, après les matchs, avant les matchs, on avait l'impression que c'était. On savait où on voulait aller, dans quelle direction on voulait aller. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Parce qu'en tout cas, le HCC n'a évidemment rien à envier à cette équipe de Langenthal, ayant terminé, bien sûr, on le rappelle, première de la saison régulière.
Une équipe Langenthal, c'est Robin Leblanc qui nous l'avait souligné aussi en interview d'avant-match, un attaquant de la formation bernoise. Une équipe de Langenthal qui peut s'appuyer sur la solidité de son gardien, Philippe Wüttrich, 21 ans, formé à Berne. Un gardien, ça peut réellement être déterminant dans un match de hockey, et qui plus est en play-off.
Ouais, alors évidemment, c'est vrai que un gardien se doit bien sûr d'être concentré de bout en bout, tenir son équipe dans le match aussi dans des situations chaudes, spéciales où l'ambiance, où le jeu, l'agressivité du jeu monte un peu. Mais c'est vrai que la performance de Philippe Wüttrich l'autre jour au Mélèze était assez impressionnante. Il faut aussi noter que c'est ses premiers play-offs en Swiss League. Hein. C'est la première fois qu'il joue ces séries. Donc il arrive jusqu'en finale. Il n'a pas joué tous les matchs de la saison régulière. Mais pour l'instant, franchement, c'est un atout indéniable pour cette équipe de Langenthal. En face, Tim Wolf est pas mal non plus. À voir aussi également sur la longueur. Hein, ça peut vite virer évidemment le mental de ce point de vue-là également.
Oui, Philippe Wüttrich, qu'on pourrait retrouver tantôt ou bientôt en Ligue nationale. Hein, il a été formé à Berne. Quoi qu'il en soit, du côté du HCC, on l'a dit, peut-être un certain manque de réussite à la concrétisation. Ce sont plutôt les joueurs suisses qui doivent prendre leurs responsabilités parce que Tim Kaufmann lui a été excellent.
Oui, absolument. Un doublé hein, pour le top scorer du HCC du côté des Mélèzes lors du premier acte. C'est vrai qu'on était là aussi assez critique au début des séries sur les performances d'Adam Azani ou d'Alain Miéville, qui sont quand même des joueurs d'expérience et puis qui sont quand même censés, même s'ils ne sont pas dans la première ligne chaudefonnière, censés amener des points à cette équipe. Alors pour le moment, ce n'était pas vraiment le cas. Encore une fois, on a vraiment manqué de piquant devant le but l'autre jour. C'est ça qui manquait à ce HCC. Espérons qu'aujourd'hui ça va rentrer. On a été impressionné par Tim Kaufmann, ses exploits, sa technique aussi, comme il maintient le puck autour des bandes en fond de patinoire, vraiment impressionnant. Après évidemment que Alain Miéville et Adam Azani, si on reprend ces noms là, n'ont pas fait de mauvais match contre Langenthal au premier acte, mais ils n'ont pas scoré. Moi j'aime aussi beaucoup la ligne qui est formée par notamment Samuel Greuzet et Dominique Weder, hein, une ligne un peu plus jeune qui amène aussi beaucoup de dynamisme en attaque. Et franchement, pourquoi pas ce soir aller débloquer les compteurs dans cette série.